J'aimerais parler d'une émission que j'ai vue sur le communisme. Elle m'a intéressé parce que ça retrace, en fait, au-delà du communisme, toutes les raisons qui ont poussé tant de gens durant ce siècle à croire dans le communisme. Alors, ça me dérange un peu parce que c'est sur un ton qui montre que il faut excuser ces pauvres militants communistes qui ont été dans l'erreur. Bon, donc c'est un peu, c'est à la fois un petit peu condescendant parce que bien sûr ils étaient dans l'erreur, et puis aussi par contre je reconnais aussi avec beaucoup de tendresse parce que les excuser c'est aussi finalement les comprendre. Mais je suis un peu partagé. Je trouve que bon. Mais c'est important d'expliquer pourquoi il y a eu cette fascination, ça c'est certain. J'ai appris des petites choses sur le communisme, notamment qu'il semble que quand Lénine donc a pris le pouvoir, je crois qu'il est mort en 23, 22, peut-être qu'il était malade, donc très vite il y a eu une faillite économique. Donc à partir de, j'imagine, 17-18, très vite le pays s'est arrêté. Déjà il n'était pas dans un bon état suite à la première guerre. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que donc, on a souvent appris, on a appris à l'école qu'il avait fait la NEP, la nouvelle politique économique, pour redresser le pays, en fait. Et c'était une sorte de concession faite au principe du communisme, parce que la NEP reconnaissait le droit d'avoir des parcelles privées, pour cultiver notamment. Ça avait un intérêt énorme parce qu'en fait ça a redressé l'économie du pays qui non et sinon était exsangue. Chose qui a été remise en cause tout de suite par Staline d'ailleurs, qui retournait à une orthodoxie pure et dure. Donc la NEP, bon voilà, c'est tout ce qu'on en savait, c'est-à-dire une entorse au communisme pour que ça puisse marcher, sinon bien sûr tout s'écroulait. Alors c'est vrai que ça, a priori, c'était vraiment une catastrophe économique, la famine, etc. Mais lors de la NEP, justement, là où la situation s'est un peu améliorée, il paraît qu'il y a eu un moment, sans doute assez court, j'imagine, de l'ordre de 2 ans au maximum, où il y a une sorte d'euphorie dans le pays. Petite euphorie, parce qu'il y avait vraiment un bouillonnement culturel, une liberté, un modernisme. Effectivement, l'ordre bourgeois avait été déboulonné, enfin, avait été détruit, et du coup, toutes les nouvelles formes d'art populaire sortaient, émergeaient. Bon, c'est intéressant, même sur le plan économique, ça veut dire que le communisme plus une petite dose de terres privées, bon, ça avait l'air d'à peu près marcher. Bon, c'est toujours un point important quand même à noter. Ensuite, je voudrais aussi parler du. Alors maintenant, des purges de Staline. Alors j'ai appris deux, trois petites choses, bon, enfin, rien de nouveau, mais enfin, quelque chose d'assez impressionnant, c'est le fait que. Donc les purges, le summum des purges, c'était en 37. Ça a continué hein, jusqu'en 38, 39 a priori. Mais donc c'est le point le plus culminant. Donc les procès où les accusés devaient reconnaître qu'ils avaient fait des que leur seul objectif c'était de détruire le communisme. Donc c'est assez terrible. Et je savais pas non plus que les purges avaient touché également tous les cadres de l'économie, du parti. Pas seulement de l'armée. Même si a priori dans l'armée, rien que dans l'armée, il y aurait eu 500 000 personnes exécutées. Ce qui est incroyable. Donc là, c'est un point important quand même. Je savais pas que c'était peut-être une telle ampleur, ça me surprend un peu. Enfin, ça me surprend. Je l'apprends. A priori, c'est tous ceux qui ont accédé. En fait, c'est les communistes de la première heure. Ceux qui éventuellement soutenaient Lénine, Trotsky, enfin des rivaux, ou Molotov, ou je me trompe peut-être pour Molotov, non, je crois. Bref. Donc tous ces gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec Staline, même si bien sûr, bon, a priori, ils étaient dans le système. Les communistes de la première heure. Et donc, plutôt que de prendre le risque de les voir le renverser un jour, qui sait, eh bien, il les a fait exécuter. Et c'est assez important parce qu'il les a remplacés par ce que j'appelle moi des âmes damnées, c'est-à-dire des gens qui lui doivent tout à Staline, et donc qui ne remettront jamais en cause son autorité. Alors, ça lui donne un double pouvoir. D'abord, des gens qui effectivement doivent ce qu'ils ont à Staline, mais au-delà de ça, comme c'est des gens nouvellement mis en place, il faut un certain temps pour que si jamais l'un d'entre eux avait envie de contester l'autorité de Staline, il faudrait un certain temps pour qu'il se renforce, établisse des alliances pour espérer prendre le pouvoir. Donc, c'est un peu une sorte de un mécanisme qui protège Staline. Donc, on comprend le système de la purge. C'est un peu bon, c'est un peu le. Il faudrait que j'étudie, mais j'ai l'impression que ça peut rappeler un peu, enfin rappeler à l'avance, la révolution culturelle de Mao. Et ce qui est frappant, c'est que lors de l'émission, ça m'a fait repenser à quelque chose de beaucoup plus proche de moi, le plan social que j'ai subi dans mon entreprise. Donc, un plan social très désagréable à vivre, bien sûr, qui s'est terminé par pas de licenciement. Alors, une grande victoire pour nous, mais une défaite pour la direction locale qui avait reçu l'ordre de mettre en place ce plan. Et donc, je dirais, à l'instar de tous les apparatchiks avant les purges, eh ben, ils ont été nettoyés, ils ont été renversés tous. C'est allé de tout, et toute la hiérarchie y est passée, du chef du site jusqu'au petit chefaillon, des gens qui avaient parfois quelques hommes sous leurs ordres. Ils ont tous été déboulonnés. Eh bien, c'est vraiment une purge. Finalement, c'est exactement le même mécanisme. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, c'est pas la violence, non. Enfin, une violence psychologique, ça, par contre, on en a vu certains souffrir beaucoup. Difficile d'ailleurs de souffrir quand ces mêmes personnes justifiaient le fait qu'il fallait licencier pour faire plus de bénéfices. Donc difficile, mais enfin, voilà, c'est une purge, c'est une purge. C'est intéressant parce qu'effectivement le but est le même. Non seulement la forme ressemble, mais le but est le même. C'est-à-dire que on a créé une nouvelle nomenclatura qui doit tout aux chefs qui les ont nommés, donc aux ordres. Ensuite, ils doivent faire leurs preuves. Hein, ils sont à peine là. On sent déjà qu'après un an, certains conviennent pas du tout, bien sûr. Mais en gros, il y a une énorme dépendance. Et ça fragilise, ça renforce le pouvoir central de l'entreprise. Ça tue tous les petits clochers, tous les petits châteaux forts qui s'étaient construits au fil du temps par la personnalité de certains chefs. Donc c'est assez troublant de voir que finalement c'est une arme. Il n'y a pas que les communistes, quoi. Finalement, c'est un mécanisme normal du pouvoir. En démocratie, il y a les élections. En dictature, c'est la purge. Et l'entreprise étant une dictature, eh bien, c'est la purge. Voilà. Est-ce que j'ai encore un point? Oui, un petit point sur les prisonniers politiques. Eh bien, dans les années d'avant-guerre, ils étaient tellement nombreux, j'ai cru comprendre. Ils étaient 9 millions, soit à l'époque à peu près 10% de la population, ce qui est phénoménal. Et ils étaient dans des camps de travail. L'émission d'ailleurs dit à tort que préfigurait les camps de la mort. À tort parce que, bon, bien sûr, il n'y avait pas de camp d'extermination. Qu'ensuite on comptait vraiment sur le travail de ces gens-là, alors que dans les camps de la mort, bon, bien sûr, bon, il y avait un travail fait, mais enfin c'était. Et surtout, ça n'a pas inauguré ce type de camp, puisqu'il existait bien avant ça. Ils auraient été créés par les Allemands, malheureusement encore eux, en Afrique. dans les années 1900, quand ils ont, pour asseoir leur pouvoir sur certaines colonies, suite à quelques rébellions, ils ont tué les trois quarts de certaines ethnies, jusqu'à 70 000 personnes d'une ethnie qui en compte une centaine de milliers. Donc des horreurs absolues. Et c'est d'ailleurs les mêmes personnes, si j'ai bien compris, Goebbels dirigeait les opérations. Travailler en tout cas. Donc, bon, c'était un mécanisme qui n'a pas été inventé par Staline. Non, on peut pas lui coller ça. Et ensuite, c'était pas l'extermination, alors que c'était vraiment de l'extermination lors des premiers camps par les Allemands, donc en Afrique. Voilà. Par contre, donc ces camps de prisonniers, là où c'est intéressant, c'est que donc ils étaient travaillés, comme j'ai dit, et ils exploitaient leur travail à un point surprenant que ils avaient besoin de ce qu'ils fournissaient. C'est-à-dire que l'économie marchait grâce à ça. Ah oui, c'est une main-d'œuvre pas chère en fait, hein. C'est une forme d'esclavage. Finalement, c'est un peu c'était les serfs des communistes. Bon, alors voilà, sous prétexte de la rééducation politique, etc. Mais la rédemption par le travail, c'était ce qui était défendu par les communistes. Un peu d'ailleurs ce qu'on tenter de défendre les Allemands fort hypocritement avec leur Arbeitsmarktfrei. Et donc, 10% de la population dedans, et donc c'est tellement important que les plans quinquennaux, les fameux plans quinquennaux soviétiques, tenaient compte dans l'économie, dans les prévisions, dans ces prévisions de cette main-d'œuvre et toute la production qui allait en sortir. Voilà, c'est quand même important de le signaler, ça donne un peu froid dans le dos. C'est un peu quelque part. Oh, allez, je vais faire un parallèle un peu osé, mais enfin. De nos jours, là, avec des gens comme Sarkozy, on est en train de dire qu'on peut pas avoir bénéficier d'un minima social, je sais pas, comme le RMI par exemple, sans une contrepartie. Une contrepartie, c'est une activité. Alors, c'est vrai que c'est flou le mot, hein. Mais de là à imposer des sortes de travaux d'intérêt général, là, il n'y a pas loin. Est-ce que tu veux survivre? Oui, alors ben, travaille. Travaille, mais bien sûr, tu vas pas travailler pour une entreprise qui donnera un vrai boulot. Non, tu vas travailler, faire des tâches que tu vas pas choisir. C'est un peu comme un prisonnier qu'on laisserait sortir de prison pour subsister. Enfin, une horreur, quoi. Et là, ça rappelle un peu ça. C'est-à-dire que c'est toujours le même principe, les 5%, par exemple, ou les 10% les plus pauvres d'une population qui se retrouveraient obligés, qui auraient plus la liberté de choisir leur travail, leur activité. C'est quand même assez. Si on prend beaucoup de recul, il y a un point commun. C'est ça. Bon, voilà, je voulais aussi parler de ça. Bon, il me reste encore 3 émissions, j'en ai vu que 2, je crois. Eh bien, ah oui, un petit détail aussi. Bon, ça c'est pas forcément nouveau pour moi, mais dans la guerre d'Espagne, lorsque les brigades internationales sont arrivées, eh bien, elles ont remis au pas les forces anarcho-communistes espagnoles. Et en fait, a priori, elles étaient assez anarcho, parce que quand Franco a, alors dans l'ordre, le Front populaire espagnol est élu. D'ailleurs, avant la France, quelques mois avant la France. Peu après, tentative de coup d'État de Franco au Maroc. Il échoue, mais déclenche toute une réaction en chaîne. Et il y a des prises de pouvoir par les anarchistes espagnols, la CNT, donc la Confédération nationale des travailleurs, je crois. Donc c'était eux la première armée républicaine. Alors après, les brigades internationales sont arrivés et en fait les ont remis au pas. Et on insiste, l'émission insistait sur le fait que c'était un peu tabou, mais en fait il y a eu vraiment une guerre dans la guerre, une guerre à l'intérieur du camp républicain. Et les Russes ont apporté l'argent, les armes, des hommes aussi, et ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir de cette armée républicaine et. Certains l'ont payé de leur vie, alors qu'ils étaient censés être dans le même camp. Voilà, c'est une chose que, bon, quand on parle de l'armée républicaine espagnole, c'est vrai que c'est tellement flou. Et puis, bon, la notion de république. Quand on est communiste comme Staline ou anarchiste anti-État, est-ce que ça a encore du sens, la république? Bon, ça c'est une petite digression très très personnelle. Voilà. Et ben pour l'instant c'est tout. Il reste encore donc 3 émissions. Il y a largement de quoi apprendre.